Jeudi 26 janvier, à la maison municipale, l'Orchestre symphonique de Prague interprétait deux œuvres de musique française, Les Nuits d'été d'Hector Berlioz et Les Trois Petites Liturgies pour la Présence Divine d'Olivier Messiaen. Or, dans cette dernière, la part belle était faite à un instrument rare et souvent inconnu du grand public que Radio Prague vous propose de découvrir.
Culture sans frontières.
Le son que vous entendez n'est pas celui d'une soucoupe volante survolant le ciel pragois, mais celui d'un instrument très peu connu nommé les ondes Martenot, instrument star de l'œuvre d'Olivier Messiaen, joué jeudi dernier par l'Orchestre symphonique de Prague, qui à cet effet avait fait appel à Bruno Perrault, virtuose français de cet instrument. Jean-Sébastien Létang l'a rencontré.
Bonjour monsieur Bruno Perrault, donc vous êtes musicien, vous jouez d'un instrument assez rare qu'on appelle les ondes Martenot. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs qu'est-ce que sont les ondes Martenot ?
Alors les ondes Martenot, c'est un instrument électronique qui a été inventé en 1928 par Maurice Martenot. Cela faisait suite à ses amusements, on va dire, qu'il faisait durant la Première Guerre mondiale, justement, avec les postes de radio de l'armée. Et il avait découvert avec les nouvelles technologies, notamment les lampes triodes, qu'on pouvait faire des sons, et obtenir des sons très purs. Il s'est dit qu'il pouvait faire un instrument avec ça. Étant déjà musicien et ingénieur, il a effectivement pris 10 ans il a consacré 10 ans de sa vie à élaborer le premier prototype, et puis il a fait cette présentation à l'Opéra de Paris en avril 1928, j'ai oublié la date exacte, et ça a été un succès. Donc il a continué, en fait, il a fabriqué en tout 7 modèles, 7 générations, et là, ce soir je viens de jouer sur la dernière génération, le 7e modèle.
Et comment ça marche ?
Il y a un oscillateur, en fait, à l'intérieur, donc c'est ce qui génère le son. Sinon, pour la partie technique, il y a un clavier. C'est un clavier qui ressemble à un clavier de piano, mais qui n'en est pas un, puisqu'on ne peut pas jouer d'accord. Donc, c'est un clavier monodique. Par contre, le clavier est flottant, il est suspendu. Donc, on peut avoir un vibrato personnel. C'est ce qui donne déjà ce côté musical, et il ne faut pas oublier que Maurice Martenot était violoncelliste. Donc, le vibrato, il connaissait. Ensuite, il y a un deuxième jeu latéral le long du clavier. Il s'agit du jeu à la bague, et donc c'est une bague qu'on enfile dans le deuxième doigt de la main droite, et avec lequel on parcourt le clavier. Donc il y a des petits repères, on a toutes les notes, l'équivalent des touches blanches et des touches noires. Il faut beaucoup se fier à l'oreille, et on peut glisser donc d'une note à l'autre. Donc on obtient ainsi un jeu beaucoup plus fluide, beaucoup plus glissé, un petit peu comme la voix humaine. Et les sons, on obtient les sons grâce à la main gauche, grâce à ce qu'on appelle la touche d'intensité. C'est une touche dynamique qui permet d'obtenir, on va dire, de partir de rien jusqu'au son le plus fortissimo. Donc avec toute la gamme qu'il peut y avoir entre, y compris les portato, les legato, staccato, enfin voilà, les lourés, les marcato, tout se fait avec le deuxième doigt de la main gauche. Et ensuite, on a encore toute une série de haut-parleurs, qui sont au nombre de 4, un haut-parleur principal comme votre chaîne stéréo. Et puis une résonance acoustique avec des ressorts en bronze, et un haut-parleur qu'on appelle aussi diffuseur métallique. Donc c'est une cymbale de tam-tam suspendue et vissée à un moteur. Donc on obtient des sons métalliques, on peut tous les mélanger à volonté, on peut les jouer séparément, et on a encore toute une série de timbres qui s'apparentent, je dirais, aux instruments d'orchestre. On a un timbre creux comme la clarinette, un timbre honte comme le timbre flûte, un timbre nasillard comme le timbre du hautbois, etc. Voilà, on peut tous les mélanger à volonté, les jouer séparément, donc ce qui donne une grande richesse sonore.
D'accord, donc j'imagine que c'est un instrument assez rare. Alors déjà, est-ce qu'il y a beaucoup de musiciens qui jouent des ondes Martenot, et quel style de musique, quel compositeur on peut jouer avec ça ?
Alors malheureusement, c'est un instrument encore assez rare, parce que jusqu'à présent, la production a été faite uniquement par Maurice Martenot, donc jusqu'en 1981, date de sa mort accidentelle. Puis c'est un petit peu continué quelques années jusqu'en 1989 par l'intermédiaire de son assistant. Puis ensuite la production s'est arrêtée. Ensuite il y a eu un instrument de fabriqué qui s'appelle l'Ondea, qui marche très bien. Il y a eu quelques modèles de fabriqué, certains ondistes jouent dessus. Esthétiquement, il s'éloigne un petit peu de l'onde Martenot, mais les sons s'apparentent, la technique de jeu est exactement la même. Donc voilà, on peut jouer le répertoire Martenot sur l'Ondea. Et là actuellement, je suis en train d'attendre, enfin il y a déjà déjà une série fabriquée, en fabrication, du nouvel instrument qui sera une réédition du septième modèle, donc une copie exacte extérieure avec des composants de toute nouvelle génération à l'intérieur. Enfin, tout va être fiabilisé, c'est une merveille. Donc voilà, j'aurai cette année, je pense, cet instrument. Et donc, il y a une continuité. Continuation de la facture instrumentale des ondes Martenot. Maintenant, nous ne sommes pas très nombreux. On va dire qu'à l'heure actuelle, nous sommes quand même une quarantaine dans le monde. Peut-être un petit peu plus, encore une dizaine de plus avec les gens qui jouent moins. Mais une quarantaine de professionnels, c'est ouais, déjà pas mal. Et on va dire que c'est un petit peu... cela vient du fait qu'il n'y a jamais eu beaucoup d'instruments fabriqués. Donc voilà, donc c'était délicat d'en trouver, donc délicat d'en jouer, etc. Je veux dire, de manière professionnelle. À part ça, tous les répertoires sont permis. Il y a le répertoire écrit classique, on va dire, de 1930 à maintenant. Hein, donc ça va de Millau, Honegger, en passant par Muraille, Boulez, et puis Messiaen, évidemment, Jolivet, donc aussi de la musique spectrale, etc. Et puis de la musique de film, de la musique rock. J'ai des collègues qui jouent beaucoup en variété, rock, etc. J'ai moi-même joué avec le groupe Radiohead. Et Johnny Greenwood de Radiohead a composé une partition pour moi et pour ma collègue Valérie, avec qui je joue souvent, qui s'appelle Smear. Donc c'est pour deux ondes Martenot solo et Sinfonietta. Et la partition a été créée par nous-mêmes et a été mise sur disque. Et ensuite, fait partie d'une musique de film qui s'appelle There Will Be Blood, avec Daniel Day-Lewis. J'ai oublié le nom du réalisateur. Voilà. Donc, j'ai aussi récemment enregistré un DVD de rock jazz, avec un groupe qui s'appelle Tetsuo, de Pau. Donc, un excellent groupe. Ils sont deux d'habitude, mais là, c'était en big band. Donc, on était 11, avec plein d'instruments hétéroclites. C'est un instrument qui se mélange très bien aussi bien avec les instruments classiques, seuls, ou avec des instruments comme la vielle à roue, ou la clarinette basse. Il y avait encore du violon électrique, etc. Enfin, il y avait plein de choses pour Tetsuo. C'était vraiment très bien. On peut le trouver en DVD, dans le commerce.
D'accord. Et à votre avis, qu'est-ce qui fait la force d'un tel instrument, puisque c'est un instrument électronique, mais très vieux, puisqu'il date des années 30. Alors, qu'est-ce qui fait sa force par rapport aux instruments tels que les synthétiseurs modernes et tout ce qu'on peut faire avec la technique dont on dispose aujourd'hui?
Alors, mon avis est qu'un instrument ne remplace pas un autre. C'est-à-dire que l'onde Martenot est née en 1928, il n'était pas le premier instrument électronique à être fabriqué. On fabrique des instruments électroniques, ou en tout cas des instruments qui utilisent l'électricité, depuis, je crois, 1890. Enfin, le premier, ça devait être une ampoule de laquelle on approchait les mains, système Theremin. Ensuite, il y a eu Theremin, mais il y a eu énormément d'autres instruments, le telharmonium, enfin vraiment, c'est... Et puis, l'équivalent du Martenot allemand, le Trautonium, qui était aussi un instrument formidable et qui, malheureusement, n'a pas perduré, puisque sa situation était encore pire que l'on Martenot, puisque là, il y avait un seul grand professionnel qui en a joué toute sa vie, mais une fois qu'il est mort, c'était plus ou moins terminé. Donc, et c'est dommage parce que c'est un instrument fantastique. Donc, toute cette génération d'instruments vintage, qu'on dirait, moi, je pense qu'elle a encore de beaux jours devant elle. Je pense aussi au Theremin qui est refabriqué, notamment par certains thereministes. Donc, il y a des modèles plus qui rajeunissent un peu le look de l'instrument, pratiquement genre VTT. Enfin, c'est assez hallucinant. Il y a des modèles sobres, bon marché, puis des modèles plus complexes. N'importe qui peut se lancer, voilà. L'onde Martenot, pour l'instant, c'est plus difficile, mais avec la nouvelle génération, ce sera plus simple de s'en procurer. Les vrais synthétiseurs sont apparus à partir des années 50 aux États-Unis, donc Moog, mais beaucoup d'autres, notamment pour des musiques de films, comme je pense à Planète Interdite. Il y a des synthétiseurs qui ont été fabriqués exprès pour ce film, pour faire une musique extraterrestre. J'ai le disque à la maison, c'est absolument fantastique. On peut pas copier ça avec l'onde Martenot. Autant qu'avec les synthés, on ne peut pas copier l'onde Martenot. Donc d'un côté, il y a les synthés qui ont aussi, eux, évolué, puisque parmi les joueurs de synthé, il y a les puristes avec leur synthé vintage, Moog, avec de vrais sons analogiques, etc. Et puis, il y a ceux qui utilisent, on va dire, des synthés que l'on peut trouver dans le commerce, tout simplement. L'onde Martenot n'est pas là pour imiter ni un instrument classique. Hein, je parlais tout à l'heure des timbres qui ressemblent à la clarinette ou à la flûte, mais c'est pas une imitation, c'est une évocation. C'est pour donner différentes puissances au son, différentes clartés. Je crois que tous ces instruments ont leur place. Il y a un compositeur italien qui s'appelle Luciano Chailly qui a écrit une partition dans laquelle il y a du synthé et de l'onde Martenot. Landowski aussi a écrit des pièces avec synthé et onde Martenot. Le synthé n'a pas remplacé l'onde Martenot et ne le remplacera jamais, puisque l'onde Martenot, et c'est ça sa grande force, c'est pas tellement dans les timbres que l'on peut mélanger à volonté, mais qui sont limités, c'est dans sa puissance expressive, surtout. Parce que le geste musical est un geste purement instrumentale qui s'apprend dans un conservatoire, qui peut s'apprendre tout seul aussi. Mais on peut apprendre la guitare et le piano tout seul. Mais si on veut progresser, il faut aller plus loin. Maintenant, tout le monde a le droit de jouer, évidemment.
Et autrement, comment s'est passée votre coopération avec l'Orchestre Symphonique de Prague?
Alors, très bien. Je trouve que ces gens sont absolument charmants. L'accueil a été excellent. Ce sont des gens très chaleureux. Le chef était très exigeant. Et ça, j'aime bien parce que ça permet d'aller dans ses derniers retranchements. Hein, c'est-à-dire, on arrive, on a déjà joué la pièce, mais rien n'est jamais acquis. C'est un nouvel orchestre, c'est un nouveau chef, c'est une nouvelle salle. Donc, de toute façon, on recommence tout à zéro. Même si on a la pièce dans les doigts, les tempi ne sont pas les mêmes, la dynamique n'est pas la même, les exigences du chef ne sont pas les mêmes, donc on n'a aucune certitude. Donc c'est nouveau à chaque fois. C'est ce qui fait aussi l'intérêt de la musique dite classique, c'est qu'elle n'est jamais la même. Vous avez la même partition, mais après, ce qu'il en sort n'est jamais le même. Donc voilà, j'ai vraiment adoré travailler ici, et puis je trouvais que le public était très chaleureux aussi, très curieux.